Vous m'entendez, fils de pute? Tant que je suis vivant, je vous interdis de clamser. Et je jure que j'irai cracher sur la tombe de tous ceux qui lâcheront la rampe. Dans les heures qui ont suivi, sur 34, 26 sont tombés. Les 8 autres sont morts dans d'autres échauffourées, sous d'autres commandements, mais ils crachent aussi sur leur tombe, par respect. Geoff était colonel. C'était en Amérique centrale, lors d'une de ces guerres que les livres d'histoire ne nomment pas, dans laquelle le Pentagone notait que des soldats américains étaient engagés, dont les médias n'ont jamais dit que la plupart d'entre eux ne sont pas revenus. Ce n'est pas que personne ne sait, c'est que personne ne veut savoir. Dans les vallons du cimetière d'Arlington, la guerre a ce goût depuis que Roosevelt est mort. Quand on l'appelle par son nom, c'est pour cacher qu'on se livre à l'annexion. Le temps de prendre une déculottée comme au Vietnam, ou de mettre un gouvernement de paille en place, comme partout ailleurs. Ses opinions n'ont jamais freiné Geoffrey Henry Tyler dans la conduite d'une carrière irréprochable. Irréprochable, mais pas exemplaire, puisque personne n'a jamais pu l'empêcher d'émettre les dites opinions et de les coucher dans des rapports confidentiels, certes, mais qui ont décoiffé de nombreuses huiles à la Maison Blanche, dont 3 dans le bureau ovale. C'est même probablement à 2 de ces rapports ayant atteint le Saint des Saints qu'il doit sa 2e puis sa 3e étoile et sa nomination à l'OTAN puis sa délégation à l'ONU. Et c'est assurément au dernier d'entre eux qu'il doit sa mise à la retraite. La phrase « Cette 3e guerre du Golfe n'est qu'un parcours en 9 trous du cul », semblant avoir profondément échauffé l'un des séants incriminés. D'ordinaire, quand il court, Geoff ne pense pas. Il évoque les soldats sur les stèles desquels il crache et il leur accorde l'estime que l'armée n'a su leur donner qu'à titre posthume, avec une discrétion beaucoup plus furtive que ces putains de F-117 qui n'étaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il ne peut s'empêcher de songer à la limousine qui l'attend en face de Memorial Chapel. Garée sur un parking vide juste à côté de la place sur laquelle il laisse chaque jour sa propre voiture, il ne peut pas y avoir de doute. Pas le lendemain du coup de téléphone de Varansky. Colonel Joseph Varansky, le seul officier de la DIA avec lequel Geoff a créé un lien vaguement amical, qui a suffi à faire la différence quand certains renseignements étaient incomplets ou absents. Un type de confiance, du moins pour une grande gueule qui comprend à demi-mot. Un type qui appelle à minuit un dimanche après 2 ans de silence et qui dit juste
« Geoff, j'ai quelque chose pour toi. Tu fais toujours ton jogging autour de Curtis Lee? Je passerai te saluer, un de ces 4. »
Eh bien, ça n'aura pas traîné. Varansky. Geoff serait presque content de le revoir. La limousine, par contre, il n'aime pas. Ça pue des trucs plus sales encore que le Pentagone ou la Maison Blanche. Vitres tellement fumées qu'un junkie n'y retrouverait pas son filtre. Pneus coulés dans un gilet pare-balles, chrome mastiqué à la langue de l'échecue et larbin de service qui fait le pied de grue devant. Des fois qu'un moustique oserait approcher le pare-brise. À trop y songer, Geoff finit par accélérer l'allure et même à la forcer un peu. D'habitude, la serviette ne lui sert à rien. Il transpire peu et sa propre odeur ne le dérange pas. Il a sué dans suffisamment de jungle et de désert pour s'y être habitué. Avec un peu de chance, cette fois, il pourra l'essorer sur la tronche d'un sénateur du Midwest ou sur les pompes d'un enfoiré de Wall Street. Le larbin ouvre la porte arrière droite de la limousine quand Geoff passe entre elle et sa voiture. Geoff jette un œil goguenard dans la limousine. Au fond à gauche, Varansky lui fait un signe de tête. En face de Varansky, quelques brunes à peine libérées d'Hollywood lui sourient de toute sa quarantaine épanouie, mais indubitablement compassée. À côté d'elle, merde. À côté d'elle, l'homme qui lui tend la main est une des rares personnes que Geoff veut bien appeler « monsieur », sans penser « connard ».« Monsieur », dit Geoff en serrant sans retenue la main tendue. « Bonjour, Geoffrey. Si vous avez un moment à nous accorder... » Geoff monte dans la voiture et s'assoit sur la banquette à côté de Varansky, face à l'homme qui voulait faire de l'ONU une institution consacrée aux droits de l'homme. La limousine vibre à peine en démarrant et s'engage sur McNair. La vitre de séparation entre l'espace arrière et les sièges avant reste baissée. Avec amusement, Geoff remarque qu'il est le seul blanc dans le véhicule. « Je suis désolé de vous imposer cette mise en scène », reprend l'homme pour lequel Geoff a risqué 2 fois la cour martiale, tout en adressant un sourire à celle dont Geoff est maintenant sûr qu'elle fait carrière à Hollywood. « Il m'était difficile de vous contacter plus... »